Voilà, c'était Mickaël en direct de, du boulevard des Invalides dans le 7ème. Non.
Voilà, j'écoutais le journal là ce soir et puis alors j'entends cette phrase. L'Union européenne va demander à Israël une trêve immédiate. Alors je sais pas moi, il me semble qu'il y a un contresens là-dedans. Puisque si elle va demander, c'est bien la preuve que c'est pas immédiat, non? Voilà, après 4 jours de bombardement, utiliser le futur proche, c'est presque une invitation. Ben, c'est là où on se rend compte que l'éviction d'Alain Ray, là, de France Inter, ça a laissé un vide, quoi. Il nous manque. Merci, au revoir. C'était Rock.
Bonjour tout le monde, bonjour et merci à Daniel pour cette rediffusion de l'extraordinaire émission d'Abraham Bourg, de Shlomo Sand. Abraham Bourg, c'était très intéressant aussi. Je ne fais pas tout à fait le distinguo que faisait l'auditrice qui a téléphoné aujourd'hui, mais bon, le livre de Shlomo Sand, il faut absolument qu'on le diffuse. L'article du diplôme cet automne, j'ai essayé de le diffuser autour de moi, comment mieux dire l'absurdité et la cruauté de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Alors moi je téléphone parce que je suis très étonnée, je sais bien qu'il faut prendre beaucoup de bémols pour parler du journalisme d'information aujourd'hui, que ce soit à la télévision, que ce soit sur France Inter, partout, dans la presse écrite, mais je n'ai vu nulle part, alors qu'on nous rebat les oreilles avec l'histoire des roquettes du Hamas, donc qui a rompu la trêve, personne n'évoque la deuxième clause qui devait figurer dans cette trêve prévue, je crois, le 19 décembre, et qui, elle, appartenait entièrement à la responsabilité de l'État d'Israël, à savoir cesser le blocus. Donc, que le Hamas ait continué à lancer des roquettes, c'est exact. Que dans ce sens, il ait rompu la trêve, c'est exact. Mais Israël, quant à lui, n'a absolument pas respecté les conditions de la trêve, qui étaient de lever le blocus.
Oui, bonjour. J'aimerais expliquer à l'auditeur qui s'exclamait que l'on entendait sur tous les médias le mot Tzahal au lieu de l'armée en Israël. J'aimerais lui dire ainsi qu'à tous vos auditeurs que ce mot Tzahal est formé des premières lettres de 3 mots en hébreu qui signifient « armée de défense d'Israël ». Car ce que vos auditeurs ne veulent pas admettre, Daniel Mermet, c'est que l'existence d'Israël a été constamment menacée, dès le début par les pays arabes qui ont essayé de l'anéantir, puis maintenant par des factions palestiniennes extrémistes, comme le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, appuyées par l'Iran qui clame la liquidation d'Israël, et la Syrie qui arme les terroristes. Tzahal, armée de défense d'Israël, n'est pas un vain mot.
C'est bientôt la nouvelle année, c'est le moment des vœux, alors je me suis dit, tiens, ben moi aussi je vais présenter mes vœux. Tout d'abord, je souhaite que l'histoire retienne le moins possible de la médiocritude du règne de Zébulon Ier. Je souhaiterais aussi que Frédéric Lopez donne rendez-vous en terre inconnue à Brie-Sortefeu. Mais surtout qu'il y reste. Je sais, c'est pas très fair-play, mais bon, il y en a bien qui vendent leur joie sur eBay après Noël. Je souhaite aussi la bienvenue au repenti des phares qui va être accueilli discrètement dans notre pays avec une bourse de 1 600 € par mois. Voilà qui va mettre du baume au cœur à Marina Petrella, démolie par la bêtise, et aussi à César et Battisti qui croupit dans une geôle brésilienne. Je souhaite que Bernard Kouchner ne soit pas tué par le ridicule si d'aventure il essaye de justifier ces deux sortes de traitements. Je souhaite que Bernard Tapie dans l'ombre, que Bernard-Henri Lévy cesse de mettre sans cesse sa vie en danger, et qu'il écrive sur ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les hôtels 4 étoiles. Je souhaite encore que tous les artistes qui défendent la culture officielle, c'est-à-dire Clavier, Bigard, Haricot Macias, Mireille Mathieu et j'en passe, se produisent exclusivement sur TF1. Comme ça, le téléspectateur de cette chaîne attendra avec impatience la coupure publicitaire. Je souhaite encore que le département du Gers soit jumelé avec Medellin, que le siège des RG et de la DST soit transféré là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire sur le plateau de Mille Vaches. Plus sérieusement, je souhaite aussi qu'Obama ait une attitude plus juste sur le conflit israélo-palestinien. Ça semble une urgence. Je souhaite aussi qu'il se déplace avec un gilet pare-balles. Et pour finir, bien entendu, je souhaite longue vie à la base si j'y suis, qui est pour beaucoup l'équivalent de ce que la ventoline est aux asthmatiques. Salut à tous et bonne année, c'était Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Merci, chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux, modestes et géniales, pour ces vœux. On en reçoit beaucoup et on vous remercie. Et on vous envoie, bien sûr, nos vœux de tout ce que vous voudrez pour l'année qui vient de la part de toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, avec une pensée spéciale quand même pour les plus de 64 000 nouveaux chômeurs dans notre bel hexagone, et puis une pensée toute spéciale pour les Gazaouis, les habitants de Gaza qui sont en train de se prendre tout ce qu'on veut sur la tête. Je me souviens d'un reportage qu'on avait fait il y a quelques années, certains d'entre vous s'en souviennent, c'était la rencontre avec un pilote de Tsahal, pour faire plaisir à la dame, qui s'était rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bien, d'être dans des avions de chasse et de tirer sur des populations civiles, et qui avait arrêté de faire ça, qui avait préféré, je sais pas s'il avait pris sa retraite ou s'il avait carrément déserté. C'était un mouvement des pilotes de Tsahal, justement. Après qu'on retrouve ce témoignage qui était particulièrement bouleversant. Merci à tous, en tout cas, pour ces messages. Aujourd'hui, alors, on va finir l'année en beauté avec un petit voyage à Monaco. Pourquoi Monaco ? Parce que Monaco est un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique. Vous vous souvenez ? On y avait fait un tour avec François Ruffin. François Ruffin est un bon journaliste et il a fait ce reportage à Monaco et il a appris qu'il ne faut surtout pas dire du mal du prince à Monaco. Et lorsqu'on obtient un entretien avec une personnalité de Monaco, eh bien, il faut faire ça dans les règles et avec tact et retenue et avec un sens de la communication dont nous sommes, vous le savez, tout à fait familiers à la base si j'y suis. C'est donc ce petit reportage pour finir l'année que je vous propose d'entendre jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37, rêve de toi, petit caillou tel le petit pousset à mettre sous nos pas et derrière nous, un message de Marie-Paul de Villejuif, très beau, Gérard Manset, et puis d'abord une affaire de lait. À bientôt et bon vœu.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je suis une auditrice lilloise et mère de 3 enfants. Hier, je suis allée à la ferme, près de chez moi. Ils vendent le lait 50 centimes le litre. En grande surface, c'est le double. J'allume la télé hier soir et j'entends comment les grandes surfaces s'entendent entre elles pour maintenir les prix au plus haut. Alors, je voulais vous faire part à tous de ma résolution 2009, ne plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. J'ai décidé de les boycotter. J'irai à l'épicerie, j'irai à la boucherie, je me débrouillerai. Mais je ne veux plus y mettre les pieds, voilà. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à faire ça. Merci.
J'ai fait un rêve. J'avais un toit sur la tête. Oui, sur la tête, j'avais un toit. Un toit comme toi, tu as un toit. C'était mon tout, mon toit. Toi, toi, mon toit. Il y faisait chaud. C'était pas le toit du monde, mais un toit dans le monde. Ah, la belle étoile que j'avais dans ma tête. Plus celle polaire de mes nuits sans toi. J'ai dessiné des milliers de toits sur les murs de mon toit. J'en dessinais pour tous les sans toits. Un pour toi, un pour toi. Je comptais les toits comme on compte les moutons. Et j'en ai compté des toits. Bien plus qu'il en fallait. C'était mon dernier rêve. Je ne me suis pas réveillé. Le toit du ciel m'a emporté. Le froid m'a dit toi, le toit sans toi. Je t'amène avec moi. Car les hommes au rapport à toi t'offriront pas de toi. Alors je suis mort comme des centaines. Des milliers de sans toits. On m'a ramassé. Et là, après le toit du ciel, j'ai trouvé le toit sous terre. Mais jamais, je n'ai connu le toit sur le bitume. Alors toi, toi sans moi, c'était mon rêve. Voilà, c'était Patrice de Grenoble. Joyeux Noël à tous. Bye.
Bonjour, c'est Martine de la Loire. À tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, je voudrais qu'on essaye de trouver une solution tous ensemble. Pour le 29 janvier, il faut absolument qu'on laisse des traces de là où on passera pour la grève. Alors je sais pas de la nourriture, parce que non, par les temps qui courent, ce n'est pas utile. mais je sais pas, des cailloux, quelque chose où on voit qu'il y a des grévistes qui sont passés par là.
Allô Daniel, c'est Michel d'Albi. Pour la troisième fois, nous appelons à un rassemblement devant la préfecture d'Albi. C'est lundi 5 janvier à 15h. C'est pour s'opposer à l'expulsion de 4 familles tchétchènes avec enfants en bas âge. Le préfet du Tarn peut user du droit de souveraineté qui permet à la France d'exercer le droit d'asile. Nous sommes un collectif de plus de 25 organisations et associations et simples citoyens à soutenir ces familles. Nous savons que celles-ci seraient reconduites en Pologne par où elles sont arrivées en Europe. Or, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ne sont pas convenables. Nous tenons ces informations de témoignages de réfugiés et d'organisations humanitaires. Si des auditeurs ont d'autres infos sur cet accueil en Pologne, qu'ils veuillent bien nous les transmettre au numéro du MRAP 05 63 38 38 08. En effet, ces pays-là, en bordure de l'Europe, qui doivent instruire les demandes d'asile selon le règlement de Dublin, ne peuvent plus assurer. Nous appelons tous ceux et celles qui le peuvent à nous rejoindre donc lundi 5 janvier à 15h devant le bâtiment du Conseil Général où est le service des étrangers. Tous ceux qui le peuvent, venez nombreux. Merci.
Quand les ours suivent, quand il faut les vivre en entier sans rien omettre, sans oublier de mettre ce qu'il faut d'amour, d'humanité, de risque, de richesse ou de pauvreté, quand les ours suivent, quand il faut les vivre comme des bêtes qui tirent le soc, quand les cornes s'entresoquent, alors je dis, si ces ours sont des ours d'amour, peut-être ça vaut la peine de les vivre toujours. Quand les ours suivent, quand il faut les vivre en entier, sans rien omettre, sans oublier de mettre ni le poivre, ni le sel, ni le sucre, ni le miel, quand les ours suivent, comme dans les pages d'un livre, quand il faut toujours compter, comme les pions sur le bord de l'échiquier, alors je dis, si ces ours sont des ours d'amour, peut-être ça vaut la peine de les vivre toujours. Gérard Mancé. Bonne fête à tous. Marie-Paul de Villejuif. Au revoir.
Bonjour, bon après-midi, bon voyage aussi. En effet, nous avons quitté le studio, vous voyez, le soleil est là, le ciel bleu, la mer, les palmiers aussi. Tout en restant à l'intérieur de l'Hexagone, nous allons découvrir un pays étranger, un petit pays étranger que l'on connaît parfois assez mal. Il s'agit de la Principauté de Monaco. Vous connaissez la formule d'aujourd'hui, madame. Ces voyages, nous les faisons toujours avec une téléspectatrice pour découvrir ces régions de France mal connues ou ces pays à travers les yeux de cette téléspectatrice.
Oh, quelle belle journée! Y a-t-il au monde un endroit aussi beau que ce coin de paradis? Regardez la couleur de la mer et ce ciel et ces petites villas roses et vertes sur la colline.
Salut, c'est la Bassie, j'y suis, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin, un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique, Monaco.
Vous allez prendre le quai Jean-Charles Rey, parce que en fait, le prince Rainier, dans sa grande gentillesse, a donné le nom du quai de Fontvieille à mon beau-père, qui fait face au rocher et qui fait face à notre maison, en fait. Bon. Et là, on est en train de sortir donc, du tunnel, si vous voulez. C'est le tunnel qu'on prend à l'inverse du Grand Prix. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé le Grand Prix à la télévision.
Non, mais je jouais au jeu vidéo sur mon ordinateur.
Voilà.
Donc ça, c'était un des circuits les plus difficiles avec la petite boucle au fond. À chaque fois, je me prenais les graviers et je sortais du décor.
Exactement. Donc là, c'est le virage dans la descente du casino.
Le casino, vous l'avez fréquenté quand vous étiez jeune?
Alors, il y a une petite, il y a un petit principe à Monaco, c'est que les... Nous, monégasques, nous n'avons pas le droit d'aller et de jouer au casino.
Ah bon ?
Absolument. Alors, ce n'est pas dans les textes, mais c'est dans les usages. C'est-à-dire que les monégasques ne jouent pas au casino. Un certain nombre de nos compatriotes appartiennent à au Fleuron de Monaco, qui est la société des bains de mer qui détient les casinos et le monopole des jeux à Monaco.
Il y a quasiment un monopole aussi des emplois pour les monégasques ou à la société des bains de mer de Monaco.
Absolument. Alors on n'appelle pas ça un monopole, on appelle ça la priorité d'emploi.
Quand j'ai lu des informations là-dessus, ça me faisait un peu penser à la société de caste en Inde.
Indienne, oui, oui. Parce avec que, les brahmanes.
Voilà, on a la première caste qui est celle des monégasques, de sang, parce que c'est de sang, c'est par le père, pas par la mère d'ailleurs.
Absolument. Vous savez, les sujets de nationalité sont très délicats à Monaco pour une raison simple, c'est que c'est également un des dossiers et un des domaines réservés du prince souverain, un de ses pouvoirs. Donc, il faut faire attention.
Il faut faire attention à ne pas manquer, par exemple, l'hôtel Paris, à quelques pas du casino, qui fait partie des nombreux palaces d'exception de Monaco, ainsi que le Monte Carlo Beach, l'Ermitage, ou le Métropole Palace Monte Carlo. Pour prendre un verre, ce n'est pas les bars qui manquent à Monaco. Au choix, le bar américain, ambiance cosy et alcool millésimé, le Blue et Gin, proposant plus de 17 jeans différents, et le Sea Lounge. J'aurais besoin d'aller faire un petit tour à Monaco pour me refaire une santé. Le Sea Lounge, le lieu branché par excellence, idéalement situé au bord de mer, vous pourrez vous lever dans les canapés et admirer la mer qui s'étend à perte de vue. À la nuit tombée, le DJ met l'ambiance jusqu'au lever du jour. Magnifique, non, ça fait envie, ça fait rêver, ça nous éloigne et ça nous fait oublier un peu toutes ces mauvaises nouvelles et toutes ces choses épouvantables qu'on entend à longueur de journée dans des radios comme la nôtre. Voilà pourquoi nous continuons aujourd'hui cette promenade dans ce pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique, Monaco.
Attention dans ce que l'on dit.
Pourquoi vous dites qu'il faut faire attention à ce qu'on dit ?
Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que...
Pour pas froisser le prince ou...
Non, mais je vais vous dire, c'est très simple. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Nous, on est monarchistes. Et on est attachés à notre prince et à sa famille. Et on fait partie de sa famille. Et donc, dans le cadre de ces domaines réservés et de ce domaine-là sur la nationalité, il y en a d'autres. C'est quand même lui qui a le dernier mot. Et c'est très important. Voilà.
Dans des pays comme la Belgique ou l'Angleterre, le roi a un rôle de représentation, mais il n'a pas de rôle politique réel.
L'exécutif dirige ici. La légitimité du pouvoir souverain n'est jamais mise en cause et n'est jamais contestée. Ça fait partie de nos principes constitutionnels. Ceux à qui ça ne plaît pas, c'est pas la peine qu'ils vivent ici, c'est pas la peine qu'ils soient monégasques. Premièrement, il y en a eu, mais c'est une ultra-minorité. Ça, c'est un premier point. Mais on n'attaque pas directement la personne du prince.
Il n'y a jamais rien de désobligeant sur le prince.
Non.
Didier Laurence, là, vous êtes en train d'avaler une gorgée de Monaco, donc bière grenadine. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Vous avez écrit un livre sur votre expérience monégasque, un livre qui s'appelle « Monaco, un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique ».
Ah oui, un jour j'ai rencontré le président du Conseil national monégasque qui s'appelle Stéphane Valéry, et je vais le voir et je lui dis « Alors Stéphane, comment ça va ce matin ?» Il me regarde et il me répond « Mais comment veux-tu que j'aille, Didier, dans un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique ?» Il était au premier degré, donc ça résume, vous allez voir l'équivalent du président de l'Assemblée nationale monégasque, vous allez le voir, vous lui dites « Comment tu vas ?» Et il vous répond « Je vais merveilleusement bien dans un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique. » On peut pas le soupçonner de vouloir assassiner le prince. Hein. Il était manifestement un sujet docile, on va dire, et enthousiaste. Très sincèrement, moi j'arrivais de Paris avec des réflexes de journaliste parisien. Et à Monaco, ce que j'ai découvert, c'est que la vie au quotidien, encore une fois, je suis pas procureur de Monaco, la vie est agréable, les gens sont intelligents. Mais il y a une déférence par rapport au palais princier et une déférence par rapport à l'autorité de façon générale. Quand je suis arrivé à Monaco, j'avais fait un édito en disant « Que fait le prince ? Qu'est-ce qu'il attend pour recruter son directeur de cabinet ?» Et le lendemain, j'ai eu un coup de fil de l'attaché de presse du palais princier en me disant mais Laurence, comment vous osez interpeller le prince comme ça ? Vous dites « Que fait le prince ?» Mais mon bon ami, le prince, il fait ce qu'il veut, quand il le veut. Et il ne faut pas incriminer comme ça le prince, parce que c'est pas bien, l'encre de votre carte de travail n'aura pas le temps de sécher, donc faites attention. Et puis,
c'est-à-dire, que fait le prince ? Cette simple question, vous aviez déjà dépassé la dose acceptable de subversion.
Ah, j'étais déjà dans l'autre cuidance et j'avais posé une question insolente, et donc le palais m'a rappelé tout de suite qu'il ne fallait pas interpeller le prince, et que le prince faisait ce qu'il voulait, qu'il avait de compte à rendre à absolument personne. Ce que j'ai obtempéré, parce que de toute façon, si vous avez le palais qui vous tombe sur le dos à Monaco, vous êtes mort. Vous ne restez pas à Monaco, vous repartez tout de suite.
La fête était seulement réservée aux 6000 monégasques. Ici, tout se traite en famille et n'est pas élu qui veut. Alors, quand celui qui se présente désormais sous le nom d'Albert II s'avance, le silence s'impose.
C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup d'humour sur la personne du prince et sur la famille princière. Donc on ne fait pas de remise en cause ou même d'humour mal placé. Voilà, c'est pas notre...
J'en ferai pas.
Mais là, vous avez le zoo. Ici, l'entrée du zoo. Pour l'anecdote, le prince Rainier sauvait beaucoup d'animaux des vieux cirques en France. Et quand il ne pouvait pas les mettre au zoo de Monaco, il les mettait dans sa propriété à Marché, qui est l'ancienne demeure des ducs de Guise.
Vous êtes déjà allé là-bas ?
Oui, je suis allé là-bas. Je suis allé chasser là-bas. J'ai eu l'honneur et le plaisir de chasser là-bas.
Et vous avez vu les animaux?
Oui, absolument. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Il y avait des lamas. Enfin, il y en a toute une partie encore. Et la famille Grimaldi a toujours adoré les animaux. Et il y avait des hippopotames, malgré le climat, avec des écuries chauffées. Il y avait des lamas. Il y avait des buffles. Il a eu deux tigres. Non, c'est assez incroyable. De voir ça dans le nord de la France, c'est assez étonnant.
On peut dire qu'il y a presque une continuité entre le prince Rainier qui recueillait les animaux de cirque et son fils qui, lui, se préoccupe d'environnement, se préoccupe de réintroduire, par exemple, les gypèdes dans le parc du Mercantour.
Absolument,
c'est une sensibilité familiale
et on ne se refait pas. Et heureusement, je trouve ça génial. Chacun le fait avec son âge et avec sa sensibilité. C'est bien.
Donc là, on est sur le port de Fontvieille, qui porte le nom de votre beau-père, voilà. Jean-Charles Ray.
Qui a été inauguré par le prince. Il nous a fait l'honneur d'inaugurer il y a un matin de février, où il faisait très mauvais d'ailleurs, très froid. Et je me souviens qu'il avait appelé ma maman avant, en disant qu'il était très mal foutu, mais qu'il venait quand même, parce qu'il avait une crève d'enfer. Pour nous, c'était très très important, parce qu'il...
Ça montrait l'attachement du prince à votre famille en même
Absolument.
Temps. Non seulement qu'il donne le nom de la plaque, mais qu'il fasse l'effort en étant malade de venir... prononce un discours peut-être.
Ça s'appelle, vous savez, on a une appellation assez simple, ça s'appelle un seigneur. C'était un seigneur, voilà. Il n'y en a plus beaucoup.
Mais son fils est un seigneur aussi ?
Absolument.
La princesse Caroline a 11 ans et demi, elle est l'aînée. Albert, le prince héréditaire, a 10 ans et demi. Stéphanie est la plus jeune. Un jour viendra où les attractions de l'enfance céderont le pas à celles de la vie. Alors, le prince Albert, marquis des Baux, commencera son apprentissage de chef d'État pour régner à son tour sur la principauté et ses 25 000 sujets.
On nous fait reproche, dans la base où j'y suis, de toujours interroger des petites gens sans importance. Et c'est une critique qui est recevable, en tous les cas que François Ruffin a reçue. Et lors de cette découverte, vous avez vu avec quels grands yeux émerveillés notre François Ruffin découvre, guidé qu'il est par Laurent Nouvion, ce petit paradis qu'est Monaco. Alors on s'est dit, oui, il faut quand même que nous rencontrions des personnages importants. Eh bien, on va essayer, bien difficile, de rencontrer le président du Conseil national, Stéphane Valéry. Alors, pour préparer cet entretien, un entretien comme ça avec un haut responsable, ça se prépare, on fait pas ça comme ça, on n'improvise pas. Donc, on se prépare et on va retrouver Didier Laurence, journaliste, et qui, pour des raisons que nous n'avons pas à connaître, n'est plus journaliste à Monaco. Plus journaliste à Monaco. Mais auparavant, je vais prendre quelques petites secondes de votre temps précieux pour évoquer une des déclarations fracassantes d'un altermondialiste convaincu et radical qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Vers le 20 novembre, il a fait une déclaration au Parlement européen contre les paradis fiscaux. Il s'est indigné contre ces paradis fiscaux et il a visé par exemple le Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Et vous savez le combat qu'il va mener, avec quelle détermination. Mais alors, par hasard, manque de temps probablement, il a oublié d'évoquer Monaco. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a-t-il rien dit de cette principauté, certes indépendante sur le papier, mais de fait totalement contrôlée par la France ? Pourquoi n'a-t-il pas dit que Monaco, dont le ministre d'État, c'est-à-dire le Premier ministre, est français, faisait partie des trois derniers États figurant sur la liste noire de l'OCDE sur les paradis fiscaux ? Pourquoi n'a-t-il pas dit que les 70 banques présentes sur le rocher dépendaient de la Commission bancaire française ? Le saviez-vous, chers petits amis, chers AMG ? Certaines banques monégasques attirent justement leurs clients étrangers en leur vantant les mérites de leur lien avec la France. Le slogan de celle-ci est par exemple, je cite, « Les avantages du système français sans les inconvénients ». Autrement dit, la position de Nicolas Sarkozy serait plus forte et plus crédible si Paris ne couvrait pas les activités opaques de certains établissements financiers monégasques. Rappelons que l'article 1er du traité d'amitié entre la France et Monaco, entré en vigueur en 2005 et qui scelle, je cite, « une communauté de destin », fin de citation, stipule que, je cite, « la principauté s'engage à ce que les actions qu'elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politiques, économiques, de sécurité et de défense. » Fin de citation. Et je souligne « politique et économique ». Voilà. Bon, c'est des petites informations comme ça, mais c'est pas l'important. Nous allons nous préparer à cette rencontre, à cet entretien, cette interview avec Stéphane Valéry, président du Conseil national, et c'est donc le collègue, le confrère Didier Laurence qui donne d'ultimes conseils à François Ruffin.
Alors, moi, ça m'était jamais arrivé, vous avez une plus longue expérience de la presse que moi, de livrer mes questions à l'avance, premièrement, et ensuite que mes questions soient relues et qu'on les amende avec le conseiller en communication, en l'occurrence, du Conseil national, Monsieur Stéphane Valéry.
C'est-à-dire que généralement, Valéry, quand on lui demande une interview, il accepte parce qu'il aime bien devant le micro ou devant la caméra ou éventuellement qu'on prenne ce qu'il dit en note. Et il lui arrive parfois de vous demander carrément de formuler les questions de façon à faire les réponses qu'il a envie de vous fournir. Donc ça, c'est des mœurs qui sont absolument extraordinaires. C'est complètement décalé, c'est anachronique. Et c'est comme ça.
Mais ça, vous aviez déjà vu ça. Vous êtes passé donc par la tribune, par investir, par 60 millions de consommateurs. Le fait d'écrire les questions à l'avance, de les amender avec le conseiller en communication, vous l'aviez déjà vu ailleurs ?
Ah non, c'est des mœurs qui sont assez étonnantes. Hein. Donc, il vous demande effectivement de formuler vos questions à l'avance. Et donc, quand c'est avec Valérie, c'est le cas. Quand c'est le cas avec Proust au gouvernement, c'est pareil. Tout est filtré. Et ça dure comme ça depuis des années. Et a priori, il y a toute chance pour que ça dure encore comme ça pendant des années.
Monsieur Ruffin.
Bonjour, bienvenue au Conseil national. Je vous en prie, installez-vous.
Alors là, on vous voit avec le...
Oui, là, vous avez quelques photos qui m'ont marqué. Ça, c'est mon discours à l'ONU dans le cadre de la conférence des présidents de parlement du monde. Ma rencontre avec, après mon élection avec le pape.
Le pape Jean-Paul II.
Ma deuxième, mon élévation par Albert II dans le grade de supérieur de la décoration nationale. Ça, c'est une journée des femmes qu'on a fêtée pour la première fois ici avec la princesse Stéphanie. Et mon homologue, le président du Sénat, M. Poncelet, qui m'a reçu au Sénat français.
Oui, mais c'est ça, donc vous êtes un peu l'équivalent. De...
Exactement. Donc j'ai eu vos questions, effectivement. Alors, on va essayer de répondre de manière très courte.
D'accord. De toute façon, ça reste entre nous, le fait que je vous ai filé les questions à l'avance, oui, que sûr. Je les ai un peu modifiées, puis tout ça.
Bien sûr.
Parce que, enfin... c'est une question d'honneur professionnel, vous voyez. Bon, bah donc, même si on a écrit les questions et puis un petit peu les réponses à l'avance, l'objectif, c'est de faire ça de manière la plus spontanée possible.
Oui, bien sûr. C'est une radio, j'ai bien compris. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on procède? Vous me posez la question et je vous réponds comme si on était en direct ou comment voulez-vous qu'on enregistre?
Oui, voilà. Ouais. Je vais sortir le matériel. Donc je vais prendre les questions dans l'ordre qu'on les a... Alors, une question préalable pour éclairer nos auditeurs français et moi également. Aujourd'hui âgé de 46 ans, vous êtes le plus jeune président du Conseil national de Monaco, élu en 2003, réélu cette année en 2008. Qui êtes-vous, Stéphane Faleri ?
Eh bien, je suis un monégasque qui a fait toutes ses études au lycée Albert Ier, notre lycée public de Monaco. Je suis diplômé donc de l'École européenne des affaires du groupe EAP-ESCP de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. En ayant terminé mes études, je suis rentré dans mon pays et très rapidement, j'ai créé une entreprise que je dirige toujours, qui est une société de communication, de publicité.
Alors là, il y avait deux questions. Je vois que sur votre papier, c'est pas modifié, mais on a décidé de les réunir en une seule question avec votre conseiller en communication. Une de vos ambitions, en accord avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, était d'améliorer l'image de la principauté de Monaco. Comment la principauté a-t-elle misé? Le terme est peut-être mal choisi. J'avais écrit ça. Miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Oui, d'abord, la tradition de culturelle était réellement une vieille tradition à Monaco. Hein. Donc déjà à la Belle Époque, au début du XXe siècle, il y avait des ballets à Monaco de Diaghilev, connus dans le monde entier.
Ah, mais là, en fait, on avait enlevé, avec votre conseiller en communication...
On enlève la culture.
Il était convenu qu'on enlève la culture pour éliminer un
Très
peu
bien,
de...
Très bien, si vous voulez.
Donc on se concentre sur l'environnement. Ma question, en gros, c'est est-ce que, quand avec la Fondation Albert II, on réintroduit... des JPEG dans le parc du Marcontour, est-ce que c'est pas un peu gadget? Est-ce que quand on présente le Monaco Yacht Show où il y a des bateaux qui consomment un fuel immense ou qu'il y a un Grand Prix de Formule 1, on n'est pas franchement modèle non plus, quoi. Donc c'est un peu le sens de ma question. Je vais répéter pour qu'il n'y ait pas de problème,
Très bien.
Au montage.
Je vous écoute.
Donc on a éliminé la partie culture. Hein.
D'accord.
Donc comment la principauté a-t-elle misé? Le terme est peut-être mal choisi. Miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Écoutez, d'abord, je ne crois pas qu'effectivement la principauté n'a pas misé. Il se trouve que c'est une conviction profonde du prince Albert II, hein, qui a créé d'ailleurs, dès qu'il est devenu souverain, une fondation, la Fondation Albert II, justement pour lutter contre le réchauffement de la planète. Il n'y a pas là, je dirais, un calcul, il y a une conviction qu'aujourd'hui, on peut aimer son pays tout en aimant aussi sa planète.
Vous pourriez peut-être dire un mot, enfin, je vous dis ça comme ça, sur une sensibilité qu'il y aurait chez les Grimaldi à la nature, à l'environnement et tout ça, non?
Oui, ben, si vous voulez, je vous l'ai dit indirectement en disant que...
Même, non, ben, je veux dire, peut-être même Albert Ier, quand il y avait eu les expéditions et tout ça.
D'accord.
Enfin, je sais pas.
Tout à fait.
Sur une sensibilité un peu familiale.
C'est vrai. Oui, incontestablement, il y a une sensibilité dans la dynastie des Grimaldi. On peut remonter par exemple au prince savant, le grand océanographe, le prince Albert Ier, et puis bien sûr le prince Albert II, qui est un prince moderne, un prince de son temps. Il a d'ailleurs consacré une fondation, sa fondation Albert II, à ses grands objectifs qui dépassent de beaucoup, je dirais, les frontières de Monaco. Être un citoyen moderne, être un prince moderne, c'est comprendre qu'on peut aimer bien sûr son pays tout en aimant aussi la planète et en se battant pour la sauver.
Très bien. Alors, cette question-là, si la prochaine question, si ça vous dérange pas, je vais la mettre à la fin. D'accord ?
Pas de problème.
On va faire une petite série de questions rapides. Donc, si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser votre pays, lequel conviendrait le mieux ?
Moi, j'ai une petite formule. À Monaco, la tradition, c'est l'innovation.
Alors, ensuite, on va faire la même chose. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser le prince, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux ?
Humaniste.
On va peut-être le refaire pour que ça soit... Vous voyez, là, ça fait... on a le sentiment... Ça fait pas assez spontané. On a le sentiment que vous l'avez écrit à l'avance et que vous... Il faudrait peut-être une petite hésitation. Enfin, vous voyez, ça vous dérange pas ?
Oui, non, pas du tout.
Que ça fasse spontané, qu'on sente pas...
D'accord.
Que vous avez tout réfléchi avant, comme s'il y avait un sentiment de surprise. Quoi.
D'accord.
D'accord. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux ?
Écoutez, un seul, c'est difficile. Moi, je vous dirais humaniste, proche des gens, moderne, attaché à son pays, tout en l'étant tout autant à sa planète.
Très bien. Il y en a plus d'un, mais c'est votre cœur qui déborde.
Voilà.
Voilà, c'était des réponses de Stéphane Valéry, président du Conseil national, donc de Monaco. J'ai son portrait sous les yeux en couverture du Monaco's Opinion Leaders, qui est un journal d'opinion de Monaco, pour ceux qui font l'opinion. Alors, parmi ceux qui font l'opinion, il y a aussi un journaliste comme Didier Laurence, Je vous rappelle, l'auteur de Monaco, un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique, qui nous fait encore quelques commentaires.
Didier Laurence, dernière question. La liberté de la presse existe-t-elle à Monaco ?
Liberté auto-surveillée pour les journalistes, et puis le pouvoir est assez vigilant quand même. J'ai transgressé un peu les interdits, on a fait un journal plus insolent. On est arrivé à mettre en cause un ministre qui était incriminé dans une affaire immobilière et le patron du journal m'est tombé dessus. Et puis quelques semaines plus tard, donc le casus belli a été consommé. Je me suis fait virer, quoi, en gros. Hein. Le patron du centre de presse n'hésite pas à vous appeler en vous disant « Dis donc, ton édito, le ministre d'État n'a pas aimé, il faut arrêter de déconner. Ici, c'est un pays radieux, on ne veut pas de conflit. Il ne faut pas voir le côté noir des choses. Il faut dire que c'est un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique et que Monaco, c'est la vision terrestre du rêve céleste. »
Alors, je reviens à la question qu'on avait mettre au milieu puis que je mets à la fin. Peut-être que c'est une question qui est un peu limite, mais je vous la pose. On l'a raccourci avec votre conseiller. La principauté de Monaco vous apparaît-elle comme une démocratie où la liberté d'opinion et de la presse est intégrale ?
Alors là, je peux vous garantir que la liberté d'opinion et la liberté de la presse est absolument totale à Monaco.
Écoutez, je vous remercie, monsieur Stéphane Villery, donc président du Conseil national de Monaco. Et je vous remercie, et les auditeurs vous remercient.
Merci à vous.
J'espère pas avoir été trop...
Non, pas du
trop
tout.
Trop rentre dedans,
juste
trop insolent. Quoi.
Pas du tout, non.
Mais il y
a 1000 mots, à mon avis.
Je réconcilierais peut-être un petit peu sur votre arrivée à Monaco,
oui,
si ça vous dérange
sûr,
pas,
bien sûr, pas du
sur
tout,
votre
pas du
retour
tout,
des études.
Je vous présente ma petite chienne, Lily.
Ah, d'accord.
Qui vient de temps en temps...
C'est un Yorkshire, alors.
C'est un petit Yorkshire, voilà.
Je ne l'ai pas fait rentrer avant, parce que des fois, elle fait des petits aboiements qui auraient pu être gênants à l'antenne, mais... Voilà,
bonjour.
Vous avez le stylo du Conseil national de la Principauté. Hein, je vous le laisse dans la boîte. Hein.
Merci beaucoup pour le stylo.
Je vous en prie.
Sur le fait qu'on a échangé des questions à l'avance et puis tout ça.
Ça reste entre nous.
Ouais, je préfère que ça ne s'ébruite pas trop parce on tient à sa réputation. C'est pas qu'on veut être subversif et puis tout ça. Mais l'indépendance des journalistes, c'est important. Et si on apprend que je vais être la risée de mes collègues et puis tout ça,
vous
comprenez. Monsieur Valéry, au revoir.
Vous m'accompagnez, monsieur.
Au revoir à votre cœur cher.
Voilà.
À Lily. Au revoir, Lily.
Qui
a un petit pince à cheveux dans les poils. Alors.
Oui, sinon, on ne voit plus ses yeux.
D'accord.
Bonne journée, merci.
Au revoir.
C'est bien, hein? Il est bien, monsieur Stéphane Valéry. Bon, alors on va continuer maintenant, c'est pas tout, on n'a pas fini. Vous savez que c'est tout petit, Monaco, évidemment, c'est tout petit, mais on n'en fait pas le tour si rapidement que ça. Hein. Il se passe plein de choses. Alors, où en sommes-nous exactement? Alors, là, on se retrouve au bistrot et on retrouve... c'est bien Monsieur Laurence qu'on retrouve.
Alors, vous avez été viré de Monaco Hebdo après un an à la rédaction en chef, et vous avez été viré avec l'article 6.
Ah oui, alors ça c'est une spécificité monégasque, ça peut faire bondir en France, mais quand j'en parle de façon plutôt amusée, c'est-à-dire que vous êtes viré du jour au lendemain sans qu'on ait besoin de vous fournir un motif de licenciement. C'est-à-dire, le type vous appelle, il vous dit que vous êtes viré. Alors vous dites pourquoi, il dit je ne vais pas vous l'expliquer. Et donc vous pliez arme et bagages, et puis voilà, vous dégagez. Donc on n'a pas besoin de vous justifier les causes d'un licenciement. Donc vous êtes un Kleenex en fait. On vous balance comme un Kleenex et on n'a pas à vous expliquer pourquoi le Kleenex on le considère comme usagé.
C'est un CPE, c'est un contrat de première embauche éternel quoi.
Voilà, c'est ça, absolument. Oui, c'est un contrat, c'est ce qu'on a refusé en France qui est là-bas. Et alors il y a un point sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'on a l'impression que Monaco c'est une espèce de paradis où l'argent coule à flot, etc. Non, donc il y a du travail, mais les conditions de travail sont pas très bonnes et les salaires sont pas mirobolants du tout. Ce qui fait que vous avez les gens qui viennent de France, qui travaillent à Monaco, qui empochent le petit salaire qu'ils ont à Monaco et qui repartent vivre en France tous les jours comme ça, mais c'est un logone prolétarien. Enfin, les gens ne gagnent pas bien leur vie. Mais il y a du travail. Les syndicats ont pensé que quand le prince Albert II est arrivé au pouvoir, il allait y avoir une libéralisation de la société monégasque avec un code du travail. Il n'y a pas de code du travail à Monaco. Donc ça se fait un petit peu à la bonne franquette, tout ça. Et donc ils ont pensé qu'il allait y avoir une espèce de Big Bang. En fait, on retombe dans les travers de la société monégasque avec des gens très riches d'un côté. Et puis de l'autre côté, bon, bah, les Français qui travaillent, les petites gens et que...
Alors, pas d'impôts sur les plus-values, des impôts très faibles sinon inexistants, pas de code du travail, la possibilité de licencier du jour au lendemain, des syndicats un peu sous l'été noir.
Pour les entrepreneurs, il faut mettre le cap sur Monaco, c'est merveilleux. Hein. Alors, c'est un régime qui est taillé pour eux. Qui a comme avantage de procurer du travail, il ne faut pas oublier que c'est un pôle d'emploi important. Mais la contrepartie, c'est que c'est le 19e siècle. Hein, donc l'employeur a tous les droits, le salarié n'en a aucun. Quoi.
Là, on se trouve sur la place d'Armes.
C'est le grand lieu de rassemblement pour les manifestations syndicales et autres. Nous sommes à deux pas, à un jet de pierre du palais princier.
Il y a des manifestations, quoi. C'est les manifestations de Bentley.
Non. Les manifestations concernent la vie quotidienne des monégasques et des non-monégasques, et aussi de ceux qui viennent de l'extérieur travailler à Monaco et participer à créer ce PIB unique par habitant, puisque Monaco est situé aux premières places pour le produit intérieur brut par habitant.
Mais quand on manifestait à l'époque, des années 80, on manifestait tout doucement sur le trottoir, sans pancarte, sans rien. Aujourd'hui, on est dans la rue, on arrête les voitures, il y a les banderoles, il y a tout ce qu'il faut. Donc on a imposé ça.
Ah oui, surprenant. Surprenant des syndicalistes, des travailleurs qui manifestent à Monaco. Ça peut paraître évidemment tout à fait inattendu, mais on vient de nous le dire. Monaco, c'est le paradis des entrepreneurs. Il n'y a pas de code du travail. Et pourtant, ils se battent et ils essaient de se défendre.
Vous devez être des salariés privilégiés à Monaco quand même.
Oui, très privilégiés, puisque nous avons le SMIC monégasque. C'est tout simplement le SMIC français plus 5%.
Je croyais que c'était le SMIC français multiplié par 5, moi, le SMIC monégasque.
Voilà, mais justement, c'est des idées préconçues. D'autant qu'à Monaco, il n'y a pas les mêmes textes de loi qu'en France. La précarité n'est pas du tout réglementée.
C'est vrai, il faut être moderne aussi. La flexibilité, c'est quelque chose d'important. C'est ça qui fait aussi la prospérité de Monaco.
Voilà.
L'article 6 dit tout simplement, le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cet article-là ne précise pas qu'il faut un motif.
C'est pratique parce qu'il suffit qu'il y ait une des parties qui soit d'accord et elles sont toutes les deux d'accord. C'est la vraie liberté, ça.
Il y a d'autres articles qui prévoient notamment des priorités. Donc, priorité d'embauche, on veut bien prendre en compte le fait qu'on puisse d'abord faire travailler ceux qui sont à Monaco et autour, mais au niveau du licenciement, non. Parce que dans le licenciement, c'est l'inverse. Donc le monégasque est le dernier à partir.
Après, ça c'est prévu dans la loi. En cas de licenciement, on licencie d'abord les étrangers, les Français, les Italiens.
Ouais. Ceux qui habitent à l'extérieur des communes limitrophes. Ensuite, les communes limitrophes. puis les habitants de Monaco, puis les conjoints de Monégasques, et les derniers, les Monégasques.
Ah, disons, c'est bien prévu quand même dans la loi, tout est prévu.
Il y a de toutes catégories, vous voyez aussi, les habitants de communes limitrophes, ceux qui n'habitent pas les communes limitrophes, ceux qui habitent en France, ceux qui habitent en Italie.
Quand on sent venir le plan social, tout de suite on déménage, on se rapproche de Monaco pour être licencié le plus tard possible, alors. C'est pas vrai.
Et ça se passe, et c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, quand il y a un licenciement, eh bien on voit effectivement des salariés pour défendre leurs problèmes personnels.
Donc ils viennent habiter sur Monaco ou...
Sur Monaco, c'est pas possible, parce que comme on le disait tout à l'heure, les loyers sont chers.
Et donc, ici, c'est le laboratoire, en temps réel, de l'ultralibéralisme appliqué. C'est-à-dire qu'ici, on voit tout de suite les mesures qu'il faut que le capital prenne pour essayer de pousser encore plus avant la ligne de partage du produit intérieur brut.
Palonka Pastor, j'ai cherché à vous joindre à Monaco, mais vous êtes un businessman et un very very busy businessman. Il a fallu vous courir après. Finalement, je vous trouve là au salon d'automobile à Paris, puisque vous êtes PDG de Venturi.
J'ai été pendant une douzaine d'années un business angel, ou à l'initiative même de ce mouvement en France. Je me suis fait une petite réputation de serial entrepreneur, et non pas de serial killer, je vous rassure.
Vous êtes le premier stand à l'entrée dans le hall. Derrière vous, il y a une voiture, c'est une Porsche, c'est une Ferrari, c'est une Venturi, mais c'est une Venturi électrique.
Voilà, c'est une Venturi électrique, c'est un coupé sport qui se trouve avoir quatre roues motrices. Donc, on est plutôt avec une vision technologique, et l'écologique est une évidence, quoi. Voilà, donc,
c'est-à-dire aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir un train d'avance, mais une voiture électrique d'avance.
C'est une voiture qu'on a conçue à Monaco, à la fois un véhicule électrique, donc environnemental, en parfaite synergie avec notre prince souverain, le prince Albert II, et également un véhicule extrêmement glamour qui dit l'automobile de demain sera faite de plaisir.
Glamour écolo, c'est ça les deux valeurs de Monaco. Glamour, c'est là depuis toujours, ça va avec Monaco, en tout cas depuis Grace Kelly. Là, on y ajoute, avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le côté écolo. Je me suis tapé dedans, mais il y a un panneau là, et on voit son Altesse Sérénissime aux commandes de la voiture Venturi fétiche.
Oui, donc c'était une présentation lors du lancement de ce véhicule, et donc son Altesse le Prince Albert II avait fait le plaisir de s'asseoir dans notre engin. Il l'a conduite et je crois qu'il l'a appréciée, je l'espère.
Il l'a acheté.
Il en a une à disposition.
Monaco, en tout cas, c'est une ville qui a un taux de croissance étonnant. C'est un îlot de croissance chinoise au sud-est de la France.
Globalement, ce qui rend Monaco attractif, c'est le côté sex appeal. C'est unique au monde. Même la croissance des Chinois ne peuvent pas répliquer un tel modèle aussi exceptionnel.
Mais par exemple, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, les impôts sur le revenu, les impôts sur les plus-values, c'est des choses qui existent à Monaco ?
Donc nous n'avons pas effectivement de taxe professionnelle, par exemple.
Taxe d'apprentissage ?
Non plus, pas de taxe d'apprentissage. Donc c'est vrai que ça allège globalement pas mal les choses. Mais...
Impôts sur les plus-values ? Qu'est-ce qu'il y a comme impôt sur les plus-values ?
Il n'y a pas d'impôt non plus sur les plus-values. Donc, vous voyez, c'est assez relax.
Et impôt sur les revenus ?
Il n'y a pas d'impôt sur les revenus et il y a des droits fixes pour les droits de succession. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des avantages.
Là, vous décrivez un paradis entrepreneurial quand même.
Oui, mais bon, c'est un système à part. L'immobilier compense, fort heureusement pour notre business familial, hein, mais l'immobilier compense.
Vous connaissez peut-être cette phrase d'Ernest Antoine Seillard quand il était président du MEDEF. Il déclarait 500 pages de code de travail, c'est 500 000 chômeurs. 3000 pages de code du travail, c'est 3 millions de chômeurs. À Monaco, le code du travail, enfin, il n'est pas très épais, je crois.
Je ne connaissais pas cette citation. En tout cas, il est certain que le bon arbitrage, c'est que le patron puisse très rapidement embaucher et assurer ainsi la prospérité de son entreprise sans être terrorisé. Je crois que c'est le cas à Monaco. Globalement, on n'est pas terrorisé comme ça peut être le cas dans certains pays, d'embaucher en disant « Ah bon, après... »
Des patrons victimes du terrorisme, bien sûr, on a ça en France, mais beaucoup moins, vous l'entendez, beaucoup moins à Monaco, paradis des entrepreneurs, même si les syndicalistes que nous venons de rencontrer nous expliquent qu'ici, Monaco, c'est le laboratoire en temps réel de l'ultralibéralisme appliqué. Ça fait rêver, non ?
Avant la guerre, il n'y avait pas de syndicats. Il n'y avait pas non plus de loi sociale. Et le 3 septembre 1944, Monaco, qui était occupé par les fascistes italiens, et ils avaient leur local. Monaco, il faut le dire, et on peut le dire, a quand même pas mal collaboré avec les fascistes italiens de l'époque.
C'est les autorités qui ont collaboré ? C'est le patronat ? Ce sont les salariés ?
C'est plutôt le gouvernement princier de l'époque. Donc le prince de l'époque a fait appel à la CGT de Nice, aujourd'hui ça paraît fou, pour voir un peu avec eux comment ils pouvaient créer un syndicat. Pourquoi il a fait appel pour créer un syndicat à Monaco ? Tout simplement parce que ceux qui ont libéré Monaco avaient l'intention de régler quelques comptes et pourquoi pas de monter jusqu'au palais. Donc là...
C'était des communistes à Monaco.
Il y avait des communistes à Monaco. Il y avait...
Au 51, la rue Grimaldi, il y avait la permanence du Parti communiste. Les gens affluaient pour adhérer au Parti communiste.
Juste là, au coin de la place d'Armes, il y avait le local du Parti communiste.
Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, ou les FMI, les forces monégasques de l'intérieur, elles voulaient aller au palais pour...
En conséquence, les syndicats sont nés de cette volonté d'avoir un organisme convenable avec lequel on puisse traiter. Voilà pourquoi l'Union des syndicats.
Donc finalement, le prince, il a appelé la CGT de Nice pour qu'il crée un syndicat ici à Monaco, de manière à canaliser un peu ses adversaires de l'époque.
Lui a pensé que ce serait la meilleure solution pour essayer justement de canaliser ce mécontentement qui pouvait se diriger, y compris vers le chef de l'État de l'époque. C'est clair, ça c'est clair. Le local des fascistes italiens a été réquisitionné par le gouvernement pour le remettre à l'Union des syndicats de Monaco.
Là, pour moi, on croit rêver, quoi. On se croirait sur la Lune. On est à Monaco, on est à un jet de pierre du palais princier, du casino, des Bentley, des yachts, et vous me parlez de classe ouvrière, de syndicats, de rapports de force. Comment les gens, ils savent que vous êtes crypto-communiste à Monaco ?
Bah, je n'ai jamais caché que j'étais communiste, que j'appartiens toujours au Parti communiste.
Alors, il ne reste plus beaucoup de communistes. Non. Et il faut que j'aille à Monaco, sans le savoir, pour tomber sur deux communistes.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin. Merci à Laurent Nouvion, à Stéphane Valéry, à son conseiller Olivier Venden, à Didier Laurence, à Gildo Palanca-Pastor, à Roger Benatti et à Alexandre Fals. À lire Monaco, un pays ensoleillé, dirigé par un prince magnifique, de Didier Laurence aux éditions Hachette, et également Comment les riches détruisent la planète, d'Hervé Kampf aux éditions du Seuil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique, cet après-midi, dit Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Le Bot, elle attend vos messages au 01 56 40 37 37.